Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. C'est une septuagénaire qui s'interroge sur son avenir. Elle est encore vaillante, campée sur ses 29 membres et sur des ressources en croissance, mais son mentor la rudoie et elle ne sait plus trop comment s'orienter. L'Alliance Atlantique célèbre la semaine prochaine son 70e anniversaire. Fondée en 1949, pour maintenir les Russes dehors, les Américains dedans et les Allemands en dessous, selon l'expression de son premier secrétaire général, un Britannique bien sûr, l'OTAN a triomphé de la guerre froide, surmonté quelques crises internes, notamment avec la France, et géré plusieurs conflits militaires depuis les Balkans dans les années 90 jusqu'à l'Afghanistan où quelques 16 000 hommes portent encore aujourd'hui son écusson. Mercredi prochain à Washington, le secrétaire général de l'OTAN, le Norvégien Stoltenberg, s'exprimera devant le Congrès, une invitation en signe de défiance envers le président Donald Trump, adversaire déclaré, on le sait, du multilatéralisme et volontiers méprisant à l'égard de ses alliés. À quoi sert donc l'OTAN aujourd'hui ? La Russie apparaît-elle à tous ses membres comme la menace principale ? Comment l'outil militaire a-t-il évolué ? Quel est le jeu de la Turquie, qui compte la deuxième armée du dispositif et qui veut maintenant s'équiper de missiles russes ? Jusqu'à quel point l'hostilité de la Maison-Blanche à l'égard de l'OTAN est-elle un facteur d'affaiblissement ou pousse-t-elle au contraire les Européens à plus d'autonomie ? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Alexandra de Hoopscheffer, vous dirigez à Paris le think tank German Marshall Fund et vous êtes une spécialiste de la politique étrangère américaine. Dorothée Schmidt, merci d'être avec nous, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI. Depuis Berlin, par téléphone, Claudia Major. Merci. Major, on dit. Claudia Major, pardon. Vous êtes chercheuse associée au German Institute for International and Security Affairs. Et j'ai pu interroger par téléphone tout à l'heure Rob Mallet, qui dirige l'International Crisis Group et qui nous fera part de son analyse de la position américaine vis-à-vis de l'OTAN. Bruno Tertrais, 70 ans, c'est tout à fait remarquable pour une alliance militaire d'avoir duré aussi longtemps, finalement.
C'est tout à fait remarquable et effectivement, il y a une raison pour laquelle cette longévité est aussi impressionnante, c'est que ce n'est pas une alliance comme les autres. C'est-à-dire que d'abord, c'est une alliance entre démocraties. Alors, on peut discuter de savoir à quel degré de démocratie certains des pays membres sont aujourd'hui, bien sûr, mais c'est important, parce que les alliances militaires, d'habitude, c'est fondé uniquement sur les intérêts, pas forcément sur une communauté de valeurs. On a essayé de créer, pour la première fois quasiment dans l'histoire, une communauté de valeurs. Puis, deuxième raison, c'est que cette alliance a été doublée d'une organisation militaire extrêmement importante, là encore la plus grande organisation militaire multinationale de l'histoire, ce qui est l'organisation de l'OTAN. Et donc, ce sont ces deux aspects, communauté de valeurs, en tout cas sur le papier, entre démocratie et organisation militaire extrêmement puissante, qui explique cette longévité qui, vous l'avez souligné, effectivement, est tout à fait exceptionnelle dans l'histoire.
Oui, je crois que la durée moyenne des alliances, c'est 15 ans. C'est ce que j'ai lu.
Effectivement, ça ne m'étonnerait pas, peu importe comment on compte, mais en tout cas, ça semble plutôt être la durée normale de vie d'une alliance.
L'OTAN aujourd'hui compte 29 membres, bientôt 30, puisque on a promis à la Macédoine du Nord d'y entrer bientôt, pour avoir accepté de changer de nom après de longues négociations avec la Grèce. Est-ce que le poids politique de cette alliance l'emporte sur les enjeux militaires, dans la perception qu'en ont ses membres ?
Pour la plupart des pays membres, ça reste avant tout une alliance militaire. Mais bien sûr qu'il y a une vocation politique. Cette vocation politique, elle n'est pas revendiquée par des pays comme la France qui ont toujours dit « Nous, on veut que ce soit une alliance militaire, une communauté d'intérêts, c'est tout. » Mais lorsque les anciens pays membres du pacte de Varsovie ont voulu rejoindre très vite l'OTAN à partir du début des années 90, c'était parce que pour eux, c'était rentrer dans la communauté des démocraties occidentales. Alors, évidemment, aujourd'hui, le chemin parcouru montre que la notion de démocratie occidentale est peut-être sujette à caution quand on voit certaines évolutions politiques en Pologne ou même aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est à cause du fait qu'elle symbolisait cette alliance, le camp démocratique occidental, en tout cas à l'époque, en 1990, c'est pour cela que ces pays ont voulu la rejoindre très vite. C'était aussi parce qu'ils s'inquiétaient des évolutions en Russie. Mais je crois que cet aspect politique, même si nous, en France, on le met un peu de côté, parce qu'on ne souhaite pas, en général, le mettre en avant, on ne veut pas que ça devienne...
Enfin, ça va mieux depuis qu'il y a deux commandements qui ont été confiés à des Français.
Oui, les Français ont des responsabilités militaires importantes, mais ils se sont toujours battus contre l'idée que l'Alliance Atlantique soit une sorte de gendarme collectif du monde, que ce soit le bras armé de l'Occident et qui fasse concurrence aux Nations Unies, par exemple. Donc là, la France et d'autres pays aussi, d'ailleurs, se sont toujours élevés contre l'idée que ça devait être aussi un forum politique où on pourrait parler, après tout, de tout, de Huawei en Chine, du réseau 5G chinois, sauf s'il y a une question militaire, bien sûr, ou alors des questions commerciales. Cette tentation, elle a souvent existé aux États-Unis, mais là, pour le coup, on a effectivement une vraie divergence entre Français et Américains. J'ajoute que sur le plan de savoir si cette alliance représente aujourd'hui la démocratie occidentale, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, avec Dorothée Schmidt. Est-ce que on a toujours autant d'intérêts et surtout de valeurs en commun avec le régime turc, le régime de M. Erdogan? On peut se poser la question.
On peut se poser la question aussi, Alexandra de Hoopscheffer, de l'attitude du président américain. On sait que c'est une alliance évidemment surgie des cendres de la Deuxième Guerre mondiale, voulue par les États-Unis, construite très largement d'ailleurs par eux. Et on a vu avec le président actuel, il avait commencé d'ailleurs à déblatérer sur le sujet pendant sa campagne électorale, mais il a continué. Donc on a vu quand même un Donald Trump qui a unilatéralement décidé, à peu près dans l'ordre, de sortir des accords de Paris, de sortir de l'accord nucléaire avec l'Iran, de se dégager de la Syrie, même s'il a tout petit peu changé d'avis, de sortir du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Donc, sans compter des propos véritablement fort peu amènes, et je ne parle même pas des tweets. Donc, jusqu'à quel point est-ce que l'OTAN est aujourd'hui à cloche-pied à partir du moment où le mentor américain est moins bienveillant?
Comme vous l'avez dit, le leadership américain est prépondérant au sein de l'OTAN. Et si on fait un retour historique, puisqu'on est en train de parler du 70e anniversaire de l'OTAN, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que depuis le départ dans cette décision des États-Unis, qui était quand même assez révolutionnaire, de rejoindre l'OTAN, de signer une clause de défense collective avec des alliés européens, était en fait fondée sur l'idée que c'est la présence notamment militaire américaine en Europe ne devait être que temporaire. En quelque sorte, l'obsolescence que Trump a utilisé le mot pour qualifier l'OTAN dès qu'il était élu, était programmée dans l'état d'esprit américain. Je cite Dwight Eisenhower, qui était le premier commandant suprême des forces alliées en Europe, en 1951, donc 3 ans après la création de l'Alliance Atlantique, disait que si les troupes américaines restaient en Europe encore 10 ans, plus de 10 ans, que ce serait l'échec du projet de l'OTAN. Et donc depuis le départ, l'idée c'était un peu comme le plan Marshall: on va vous aider, Européens, à vous reconstruire économiquement après la Seconde Guerre mondiale, on va vous aider aussi à vous protéger contre la menace soviétique, mais ça ne doit pas durer très longtemps, puisqu'après, c'est à vous de vous débrouiller. Et donc, toute l'ambiguïté de la relation des États-Unis à cette alliance atlantique est effectivement complètement amplifiée sous l'administration Trump. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il faut partager le fardeau. Donc, c'est un des sujets les plus ennuyeux de la relation transatlantique.
Le fardeau, c'est-à-dire, les dépenses.
C'est-à-dire les dépenses à la fois militaires, les dépenses en point de vue infrastructure, les dépenses aussi d'un point de vue base militaire, etc. Donc comment partageons-nous le coût de cette alliance atlantique, c'est-à-dire que les Européens doivent prendre plus en charge, leurs responsabilités, et de l'autre côté, la volonté américaine de garder une influence, d'être le leader principal de cette alliance, et donc de contrôler finalement cette alliance le plus possible. Et on voit bien que ces deux objectifs ne sont pas compatibles.
Et on a entendu en particulier donc le secrétaire d'État actuel, Pompeo, en décembre dernier, se livrait à une attaque virulente non seulement contre l'Union européenne, mais aussi contre l'OTAN, en gros, mais réaffirmant, c'est exactement ce que vous venez de nous expliquer, que les États-Unis devaient maintenir le rôle de leadership central. Mais on peut imaginer qu'il y ait aussi une dimension économique importante, parce que tout ça représente des contrats d'armement absolument considérables pour...
Bien sûr, et d'où la phrase de notre ministre de la Défense, Florence Parly, à Washington, il y a quelques jours, où elle a dit l'article 5, c'est l'article 5, c'est pas l'article F-35, faisant référence à ces avions de chasse américains que les Américains ne cessent de vouloir qu'on achète. Donc effectivement, cette idée de leadership américain est profondément aussi liée à la volonté américaine de continuer à vendre leur équipement militaire et que les Européens continuent à acheter l'équipement militaire. Et d'où ce blocage qui est en fait pour moi totalement absurde autour des propositions françaises notamment, autour de l'autonomie stratégique, c'est-à-dire une autonomie en premier lieu capacitaire mais aussi industrielle. On ne peut pas plus se débrouiller en matière de coopération de sécurité et de défense si on ne développe pas son industrie de défense. Les deux vont ensemble. Et dès qu'on montre qu'on fait des efforts dans ce sens-là, on nous traite de protectionnistes. Et c'est ça qui ne va pas dans ce débat transatlantique et que Trump a encore plus amplifié, mais qui était déjà présent depuis le tout début de la création de cette alliance transatlantique.
Mais c'est là où on peut se dire, en tout cas vu d'Europe, que les attaques de la Maison-Blanche contre l'OTAN sont totalement contre-productives. C'est en tout cas la question que j'ai posée à Rob Malley, donc le patron de l'International Crisis Group, qui est un ancien du Conseil de sécurité nationale sous la présidence Obama et que j'ai pu joindre au téléphone tout à l'heure.
Presque tout ce qu'il fait vis-à-vis de ses alliés est contre-productif, mais je pense qu'il y a son instinct qui est ce qu'il est, et puis il y a également une logique qui sous-tend ce qu'il fait, qui est qu'il préfère toujours traiter avec d'autres pays de façon bilatérale où il estime qu'il a un avantage plutôt que de façon multilatérale et collective. Il estime qu'une organisation comme l'OTAN, dont il ne comprend pas le sens. Une anecdote à retenir qu'on m'a racontée des gens qui travaillaient à la Maison-Blanche à l'époque quand il est devenu président. Et il a posé la question, est-ce que l'OTAN nous sert réellement? Qu'est-ce que ça nous rapporte, l'OTAN? Et c'est une question assez essentielle dans un sens. Mais dans son arithmétique à lui, lorsqu'on lui disait ça compte parce que nous avons des alliés, lorsque nous avons des difficultés, parce que nous pouvons compter sur eux, parce qu'il y a la solidarité, tout ça pour lui, ça ne comptait pas beaucoup. Ce qu'il voulait savoir, c'est financièrement en quoi l'OTAN rapportait quoi que ce soit aux États-Unis. Donc c'est une façon très arithmétique, très mathématique, très comptable de regarder les alliances. Et c'est pour ça qu'il y a ce problème de fond, c'est qu'il ne comprend pas qu'il y ait une logique à l'OTAN qui serait supérieure à une logique purement financière.
Ce 70e anniversaire de l'OTAN sera célébré à Washington avec une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres. Et le secrétaire général, donc Stoltenberg, s'exprimera devant les deux chambres du Congrès. Est-ce que, Rob Malley, c'est une forme de pied de nez de la part du Congrès à l'intention de la Maison-Blanche?
Je ne sais pas si c'est un pied de nez, c'est un rappel, parce que vous savez que le Congrès a même voté une résolution qui n'a pas de poids, mais qui réaffirme la solidarité des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN, etc. Donc, c'est des signaux que démocrates et républicains, dans leur vaste majorité, peuvent accepter. C'est un signal vis-à-vis de la Maison-Blanche. Je ne sais pas si c'est vraiment un pied de nez, je ne sais pas si le président Trump va se sentir particulièrement visé, mais il est vrai que ça fait partie d'une série de gestes que depuis la reprise en main de la Chambre des représentants par les démocrates, on voit de plus en plus de ces résolutions, de ces expressions bipartisanes, c'est-à-dire républicains et démocrates, concernant l'alliance transatlantique, concernant l'alliance avec la Corée du Sud, enfin concernant beaucoup d'alliances traditionnelles qui sont menacées par la politique tout à fait hétérodoxe du président Trump.
Claudia Mayor, merci mille fois d'être avec nous par téléphone depuis Berlin. Vous êtes une spécialiste des problèmes de défense dans l'un des grands centres de recherche allemand. On se souvient qu'à la dernière conférence de Munich sur la sécurité, donc c'était au mois de mai dernier, Madame Merkel a prononcé un discours extrêmement vigoureux, où elle a dit, bon, ben, il est temps que les Européens prennent en main leur propre destin, sous-entendu, puisque les Américains, ou plus exactement, le président américain, ne manifeste pas à l'égard de ses alliés et à l'égard de l'Alliance Atlantique les égards qui leur sont dus. Est-ce qu'il y a un véritable scénario de rechange?
Je crois que ce discours-là était surtout l'expression d'une prise de conscience en Allemagne, que la relation transatlantique a vraiment profondément et structurellement changé. Pour l'Allemagne, c'est un pas extrêmement difficile et une sorte de reconnaissance très difficile, parce que dans la tradition de la politique étrangère de l'Allemagne, il y avait toujours deux piliers. Il y avait le pilier européen, avec l'Union européenne et la France surtout, et l'autre pilier, c'était le pilier transatlantique avec l'OTAN et les États-Unis. Et reconnaître qu'un pilier fondamental de la politique allemande est en train de changer, je dirais pas éroder, mais de changer profondément, c'est quelque chose qui n'est pas facile à digérer à Berlin. Mais je crois que ça renvoie aussi à un des critères peut-être de succès, pourquoi l'OTAN a survécu tant de temps, c'est la capacité de s'adapter. Donc la capacité de l'OTAN de s'adapter à un changement de cadre, de tâches, de problèmes de sécurité. À la fin de la guerre froide, il y avait pas mal de voix qui ont dit « mais puisque la guerre froide est finie, puisque l'OTAN a gagné, en quelque sorte, on n'a qu'à l'abolir ». Et finalement, l'OTAN a réussi à se réinventer en tant qu'organisation qui fait de la gestion de crise, par exemple dans les Balkans, aussi avec l'élargissement à l'Est, puis elle s'est réinventée encore une fois après le 11 septembre dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, depuis 2014, l'OTAN s'est encore une fois réinventée en refocusant encore une fois sur la défense collective depuis l'annexion de la Crimée et la guerre en Ukraine. Donc il y a toujours une sorte d'effort de s'adapter encore une fois. Et je crois la grande question, et ça ferme un peu le cercle au discours de Madame Merkel, c'est de comment l'Allemagne, comment l'Europe, comment l'OTAN s'adapte à ce changement structurel dans la relation avec les États-Unis. Et ça, c'est une question qui est très grande, parce que si les États-Unis jusqu'à maintenant étaient le pouvoir politique le plus important au sein de l'OTAN, s'il n'est plus là, ça veut dire quoi pour le leadership? Ça veut dire quoi pour les capacités? Ça veut dire quoi pour la dissuasion nucléaire? Ça veut dire quoi pour l'industrie?
Donc, et là, on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse à toutes ces questions, en tout cas pas de réponse coordonnée entre les principaux pays membres.
Mais disons, je crois qu'il y a autant de réponses de l'Europe qu'il y a de pays européens. Donc il n'y a pas une réponse unifiée européenne, mais il y a plusieurs réponses qui viennent de l'Europe. Une des idées clés qui est débattue en ce moment en Europe, aussi en Allemagne, c'est l'idée de l'autonomie stratégique ou responsabilité stratégique ou souveraineté européenne. Ça renvoie toujours un peu aux mêmes idées, que l'Europe doit être capable de faire davantage elle-même. Si je le mettrais dans une phrase clé, c'est d'être créateur des règles et pas être preneur des règles. Donc la question, comment l'Europe, dans tous les domaines de politique, politique étrangère, industrie, défense, économique, tout ça, comment l'Europe peut davantage définir ses priorités elle-même, avoir les structures de gouvernance, les institutions pour les mettre en œuvre, avoir les capacités et finalement, Alexandra Dobscheffer l'a déjà mentionné, avoir aussi l'industrie qui permet plus d'autonomie. C'est un sujet très controversé en Europe parce qu'il y a quelques pays comme la Pologne par exemple qui trouve que c'est quasiment irresponsable de parler de l'autonomie stratégique parce que l'Europe est très loin.
Et la Pologne qui demande et obtient d'ailleurs directement de Washington le renforcement d'une présence militaire américaine sur le sol polonais, Bruno Tertrais. On voit bien que là, l'Europe reste balbutiante, cette Europe de la défense.
Oui et non. D'abord, je trouve un peu fort de café que les Polonais ou d'autres, parce qu'il ne faut pas personnaliser, nous disent que le thème de la souveraineté est un thème contre-productif, parce qu'après tout, ce sont eux qui, légitimement, après s'être libérés du joug soviétique, ont voulu nous faire comprendre qu'ils étaient devenus ou redevenus des nations, des États-nations souverains. Donc, le thème de la souveraineté, franchement, je crois qu'il devrait faire consensus en Europe. Après tout, nous ne demandons ni plus ni moins que ce que les Américains revendiquent pour eux-mêmes. L'autonomie de décision, l'autonomie stratégique, une industrie forte, et c'est nous qui décidons ce qui est dans notre intérêt. Donc là, je crois que on est plutôt dans le rééquilibrage plutôt que dans la rupture. Il y a quand même des réponses européennes. D'abord, quand la Pologne dit « je veux avoir un lien direct avec les États-Unis », pourquoi pas ? Tout ce qui renforce le lien transatlantique est bon, même si c'est bilatéral. Est-ce que la Pologne pense que parce qu'il y aura une base militaire américaine sur son territoire, elle sera automatiquement protégée par M. Trump ? J'en doute. Le problème des Européens de l'Est qui se sentent menacés, à tort ou à raison, et probablement plus à raison qu'à tort, par la Russie, c'est qu'ils s'imaginent que le fait d'avoir des soldats américains, même si c'est un petit nombre sur leur territoire, ça leur donne une garantie absolue du fait que Washington se portera à leur secours. Or, le grand problème, et moi je passe mon temps à expliquer ça aux Baltes, aux Hongrois, aux Polonais et à d'autres, c'est que malheureusement, avec un président comme Trump, peu importe le nombre de soldats ou de matériels américains que vous avez sur votre territoire, s'il décide au dernier moment que non, il ne veut pas que l'OTAN, que les États-Unis viennent à leur secours, eh bien, ils seront tout seuls.
Alors, et ça, c'est toute la question de l'article 5.
Voilà.
Et on se souvient qu'à propos
de l'article 5, tous pour un de l'Alliance Atlantique,
qui n'a été déclenché, à ma connaissance, qu'une seule fois au lendemain
2001,
du 11 septembre.
C'est justement les Européens qui ont dit nous sommes solidaires américains, nous viendrons contribuer à la police du ciel, à protéger votre espace.
Alors que Donald Trump a eu cette saillie en disant comment l'article 5 pour le Monténégro, pas question.
Voilà, Monténégro, c'est en plus qui en choisissant forcément un petit pays des Balkans que personne ne connaît aux États-Unis. Alors, un dernier point quand même. Non, l'Europe n'est pas balbutiante, elle fait des progrès. L'Europe de la défense est un édifice patient qui se construit en plusieurs décennies. On monte des petites marches, parfois des marches plus hautes que d'autres. On a, ces derniers temps, notamment sous l'impulsion française et allemande, on a fait des progrès réels. Quand la Commission européenne crée un fonds européen de défense, c'est une rupture majeure.
500 millions par an.
Dans la construction. Oui. Alors, c'est pas grand-chose, mais 2020. C'est la première fois que, au niveau de la Commission, donc au niveau supranational, on se saisit des affaires de défense. Quand on met en place un certain nombre d'outils dont on va pas faire la liste ici, mais parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, tout ça est un peu technocratique, mais je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience qui va bien au-delà de la France, du fait qu'on ne peut pas compter en permanence sur les Américains. Il faut pouvoir, un, être souverain, deux, agir par nous-mêmes si nous, les Américains ne sont pas avec nous, et trois, peut-être, alors ça c'est l'aspect le plus controversé, aussi avoir une sorte de police d'assurance pour le cas où il y aurait une vraie crise et que l'OTAN s'effondre. Je ne crois pas qu'on y soit, mais aujourd'hui, ça fait quand même partie des choses auxquelles il faut penser. Et il y a quand même de plus en plus d'Européens qui pensent comme ça.
Claudia Mayor, on vous rejoint à Berlin à nouveau, parce que tous ces progrès que souligne Bruno Tertrais, encore faut-il qu'il y ait du financement. Et là, on a l'impression que depuis ce discours de Madame Merkel à Munich, donc il y a quelques semaines, on voit que les enjeux de politique intérieure allemande, et notamment au sein de la coalition au pouvoir, tout cela prend le pas sur d'autres priorités plus stratégiques.
Oui, malheureusement, en ce moment, l'Allemagne a un vrai problème de crédibilité dans sa position dans sa politique de sécurité et de défense. C'est en grande partie dû à la politique intérieure, donc à une coalition qui a du mal à se mettre d'accord sur les priorités, surtout dans le domaine de sécurité et de défense. Le problème que j'y vois surtout, c'est que des problèmes de politique intérieure allemande ont un effet sur l'Europe de la défense, sur la crédibilité de l'Allemagne, mais surtout sur la crédibilité de l'Europe de la défense en général. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, l'Allemagne avait promis de dépenser 1,5% de son BIP pour la défense. C'est déjà pas les 2% promis en 2014, mais tout le monde était d'accord. L'Allemagne est cas particulier, on va accepter 1,5%. Le ministre de la Finance a déclaré il y a peu de temps que l'Allemagne que le budget n'augmentera pas autant et que probablement il va retomber à 1,2 ou 1,3. Le problème, c'est non seulement la crédibilité politique de l'Allemagne, on a promis quelque chose qu'on ne va pas tenir. Le problème aussi, un problème militaire, parce que du coup, les problèmes dans l'équipement de la Bundeswehr, donc des forces armées allemandes, ne pourront pas être adressés comme c'était prévu. Et l'Allemagne qui veut toujours être l'allié des petits pays, donc il y a beaucoup de partenariats avec d'autres pays en Europe, par exemple les forces avec les néerlandaises et allemandes sont quasiment intégrées, les Land Forces. Ça veut dire une faiblesse des forces armées allemandes affecte aussi les autres armées en Europe. Donc il y a un double problème, non seulement pour l'Allemagne, mais pour les autres Européens qui ont accepté de coopérer très étroitement avec l'Allemagne aussi. Et ça, il faut quand même dire, on ne peut pas appeler à l'autonomie stratégique de l'Europe, on ne peut pas toujours appeler au multilatéralisme et après ne pas être prête à s'engager. Et en ce moment, je vois ça avec beaucoup d'inquiétude, ce décalage entre la rhétorique et ce qui se passe dans les faits.
Alors, il faut savoir évidemment que la plainte américaine par rapport aux réticences européennes à contribuer davantage au budget de l'OTAN, c'est aussi vieux que l'Alliance Atlantique elle-même. Ce n'est pas Donald Trump qui a commencé à réclamer ainsi une augmentation des contributions. Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International, notre partenaire. Expliquez-nous donc quelle est l'échelle des contributions des différents pays au budget de l'OTAN.
Quand on pense Alliance Atlantique, on pense bien sûr aux enjeux stratégiques et moins souvent aux règles comptables. Et pourtant, on devrait le savoir, quand on parle d'argent au sein de l'OTAN, il y a toujours un pays pour se fâcher, c'est généralement les États-Unis. Vous connaissez ce président qui dit, je cite, « On ne peut plus continuer de payer pour la protection militaire de l'Europe alors que les pays membres de l'OTAN ne règlent pas leurs contributions ». Et il poursuit, on a été très généreux avec l'Europe, et maintenant il est temps que l'on s'intéresse nous-mêmes. Alors vous pensez qu'il s'agit d'un tweet de Donald Trump, s'interroge le magazine The Economist, qui publie cette citation. Eh bien pas du tout, il s'agit des mots prononcés par John Fitzgerald Kennedy, et c'était en 1963, lors d'un Conseil national de la sécurité. Et le journal britannique de conclure, les plaintes à propos des difficultés qu'ont les Européens à payer pour leur propre défense sont presque aussi vieilles que l'Alliance Nord-Atlantique elle-même. Car c'est vrai que Donald Trump pourrait tenir aujourd'hui le même discours, alors que les responsables de l'OTAN s'étaient fixés il y a maintenant 5 ans comme objectif de dépenser au minimum 2% de leur PIB national dans la défense, eh bien on constate que cette barre des 2% reste encore très lointaine pour de nombreux pays. Pourtant, on ne peut pas dire qu'aucun progrès n'ait été accompli. Depuis 2015, nous dit The Economist, les dépenses en matière de défense ont augmenté de manière significative. Mais ce qui compte, ce sont évidemment les grands pays. Or, en dehors des États-Unis, beaucoup d'entre eux restent à la traîne. C'est le cas du Canada, d'Italie ou de l'Espagne, sans parler de l'Allemagne, qui, en dépit de sa taille économique, affiche le retard le plus important, relève le journal. Un retard qui se résume à un chiffre. L'Allemagne consacre seulement 1,24% de son PIB à la défense. Alors l'Allemagne se moque-t-elle du monde? C'est ce que semble nous dire une tribune au ton courroucé parue dans le Wall Street Journal et intitulée « L'OTAN meurt, mais ce n'est pas la faute de Donald Trump ». L'auteur de cette tribune, Walter Russell Mead, attaque bien en tête le gouvernement allemand. Le message de Berlin est clair, l'OTAN et les États-Unis ne sont plus aussi importants pour l'Allemagne qu'ils l'étaient dans le passé, et Berlin, en refusant de se rapprocher des objectifs fixés, se moque non seulement de Donald Trump, mais aussi des États-Unis. Pourtant, côté allemand, eh bien, on voit les choses un peu différemment. Comme le rappelle le New York Times, les dépenses militaires ont augmenté au cours des 5 dernières années de 36%, et l'Allemagne est le deuxième contributeur en termes de fonds et de troupes à l'OTAN. Et puis, estime ce journal allemand, le Handelsblatt, ce déséquilibre entre l'Europe et les États-Unis n'a rien d'accidentel. Il est loin de se faire au détriment des États-Unis. Le quotidien allemand rappelle en effet que les États-Unis dépensent pour l'OTAN et la défense de l'Europe environ 30 milliards de dollars, c'est-à-dire 5% du total du budget américain de la défense. Eh bien, comparé aux 240 milliards de dollars que l'Europe consacre, elle, à l'OTAN, explique le journal, le déséquilibre est beaucoup moins grand qu'il n'y paraît. C'est sans doute vrai, mais cela donne quand même le sentiment qu'on n'utilise pas toujours les mêmes calculettes à Berlin ou à Washington.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Okrent.
Dorothée Schmidt, bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable du programme Turquie Moyen-Orient à l'IFRI. Bruno Tertrais rappelait d'entrée de jeu que cette alliance a été créée donc en 49 sur l'idée d'une communauté d'intérêts et de valeurs. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que le président turc, c'est le moins qu'on puisse dire, au fil de son long règne, s'écarte de plus en plus, sûrement des valeurs et peut-être même des intérêts de l'Alliance. Et néanmoins, la Turquie en est un membre majeur. Je crois que c'est l'armée la plus nombreuse après celle des États-Unis.
Oui, on dit toujours que c'est la deuxième armée de l'OTAN, effectivement, à peu près 500 000 militaires d'actifs, mais énormément de conscrits, puisque le service militaire existe toujours en Turquie. Et en plus, une armée qui a quand même été décimée après la tentative de coup d'État de juillet 2016. Énormément d'officiers ont été remplacés pour être AKP-isés, et on a été obligé de promouvoir des officiers.
AKP étant
c'est-à-dire
le parti
rendu compatible avec l'AKP, qui est le parti de Tayyip Erdogan. Et donc, on a dû promouvoir de très jeunes officiers. Il y a eu notamment un manque de pilotes criant dans l'armée. Paradoxalement, la Turquie, en même temps, se lance dans des opérations militaires depuis cette tentative de coup d'État. Donc, c'est quelque chose de tout à fait étonnant à observer. Si vous parlez de divergence de valeurs et d'objectifs, en réalité, l'histoire de la Turquie et de l'OTAN, c'est une histoire de divergence de valeurs et d'objectifs depuis très longtemps. C'est-à-dire que...
Donc, la Turquie est entrée en 1952.
Oui.
En même temps que la Grèce, évidemment.
Oui, à l'issue de sa participation à la guerre de Corée. La Turquie, en fait, a toujours été un partenaire un peu compliqué dans l'OTAN parce que ça fonctionne au rythme de ses relations avec les États-Unis, d'une part. Aujourd'hui, les relations avec l'Union européenne sont aussi un des sujets qui est traité en réalité au sein de l'OTAN. Donc quand on avait toute cette discussion au départ, où Bruno Tertrais disait que les Européens ne souhaitent pas forcément que l'OTAN soit un club politique ou un lieu où on gère de la politique, pour les Turcs, évidemment, c'est un endroit où faire de la politique, constamment. C'est l'endroit où, en ce moment, on règle ses comptes, à la fois avec les États-Unis, avec lesquels on a beaucoup de désaccords bilatéraux, et avec l'Union Européenne, où la question de l'adhésion n'avance pas du tout. Je dirais même en bilatéral, plus strictement, il peut y avoir des problèmes avec les Français, par exemple. Ça arrive assez fréquemment. Et notamment sur les engagements de la Turquie au Moyen-Orient, qui peuvent être contradictoires avec les engagements de certains membres de l'OTAN, même si ce ne sont pas des opérations OTAN. Et là, évidemment, je pense à la Syrie. Pour reprendre une perspective un peu plus synthétique, je dirais que la Turquie, elle pose problème à la fois sur la question de la définition des membres du club, puisqu'en réalité, à la fin des années 90, la Turquie s'est déjà élevée sur l'élargissement de l'OTAN trop rapide à des membres d'anciens membres du pacte de Varsovie, en disant que ça allait indisposer les Russes. Déjà à la fin des années 90. Sur la question des équipements, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les Turcs sont en passe d'acquérir des batteries de missiles antimissiles.
Ah oui, alors expliquez-nous ça, parce que ça c'est quand même saisissant. Il y a donc à Inderlik, je crois, la plus grosse base qui reste très utile pour les forces de la coalition contre Daesh, etc. Et néanmoins, Ankara envisage ou peut-être déjà enclenché la commande de missiles sol-air russes, donc les fameux S-400.
Oui, alors Incirlik et les missiles, c'est deux questions différentes. La base d'Incirlik, c'est en fait une base turque qui est prêtée à l'OTAN et qui régulièrement est l'enjeu d'un marchandage entre les États-Unis et les Turcs. Ça a été le cas par exemple en 2003, au moment où la Turquie a interdit le passage par son sol aux troupes américaines pour aller en Irak. Ça a été un problème également sur la coalition anti-Daesh qui opérait sur l'Irak et la Syrie, jusqu'à ce que la Turquie rejoigne cette coalition en 2015. Et effectivement, la base d'Incirlik, qui est stratégiquement située pratiquement à la frontière syrienne, près d'Adana, donc pas loin de la Méditerranée, mais à la frontière syrienne. C'est évidemment une base qui est très importante du point de vue logistique en théorie, mais qui en pratique est toujours très compliquée à utiliser parce que les Turcs font payer très chèrement politiquement son usage.
Mais plus, d'où vient cette idée donc d'acheter des armes russes
Alors l'autre question effectivement c'est celle des équipements. La Turquie est un pays qui partage ce problème d'autonomisation qu'ont chacun des pays qu'on a mentionné, notamment la France qui a une industrie de défense très puissante. La Turquie veut aujourd'hui se doter d'une industrie de défense. Elle veut diversifier son approvisionnement en armement. Elle veut ne plus être entièrement dépendante des États-Unis et menace depuis des années d'acheter des missiles soit aux Chinois, soit aux Russes. Et cette négociation sur l'achat de missiles antimissiles russes des S-400, qui en principe doivent commencer à être livrés cet été, elle indispose évidemment l'OTAN pour simplement des questions de compatibilité d'armement, de sécurité. Mais ça a été l'enjeu vraiment d'un dialogue extrêmement tendu entre les partenaires de l'OTAN et la Turquie. Et la Turquie a toujours tenu tête à l'OTAN et On imagine qu'en réalité, en toile de fond de tout ça, on a cette idée que les Turcs souhaitent obtenir des conditions meilleures pour s'équiper en missiles antimissiles. On a les Patriotes américains contre les S-400 russes. Et aujourd'hui, les Américains sont prêts à faire un petit rabais sur les Patriotes, mais avec les Patriotes, on a l'idée qu'il faut avoir les F-35 américains. Et on a politiquement le Congrès américain qui commence à s'opposer à la fourniture des S-35 à la Turquie. Donc on est dans un truc un peu... On est un peu coincé, mais on a toute cette idée de ce nouveau marché des armements, ces nouveaux acteurs du marché de l'armement et tout ce qu'on a dit sur la réticence aujourd'hui des Européens à imaginer que l'OTAN, c'est aussi tout simplement une sorte de plateforme de vente d'armement américain automatique.
Mais Bruno Tertrais, en ce qui concerne l'outil militaire maintenant, c'est quand même totalement baroque d'avoir un partenaire turc équipé de missiles sol-air russes alors que... En principe, la menace militaire prioritaire pour l'OTAN reste la Russie.
Oui, mais du point de vue d'Ankara, du point de vue de la Turquie, ça se discute justement. Non, c'est d'autant plus baroque, l'expression est très justement choisie, que là on a un vrai problème de compatibilité. En principe, un des avantages d'une organisation militaire intégrée, c'est qu'en gros, les principaux équipements peuvent communiquer entre eux, peuvent se parler. Or... les fameux S-400, ces intercepteurs assez perfectionnés russes, on ne peut pas comme ça les intégrer dans un système occidental, ne serait-ce que pour des raisons techniques. Donc il y a une question politique et il y a aussi une question technique, voire de sécurité, parce que ces fameux S-400, ils doivent être entretenus quand même. Ce n'est pas du plug and play. Hein. Il va falloir quand même que les ingénieurs russes viennent de temps en temps voir comment ça se passe. Donc c'est quand même très compliqué cette affaire. Alors est-ce que c'est juste un outil de négociation? Est-ce que ça restera quelque chose qu'on va pouvoir isoler du reste du dispositif militaire de l'OTAN, ou est-ce que c'est le début d'un vrai souci, là pour le coup, et d'un vrai glissement de la Turquie dans une position un peu baroque, pour reprendre notre expression, nous le verrons. Mais l'idée selon laquelle la Russie est le problème principal de l'OTAN, c'est une idée qui n'est pas consensuelle aujourd'hui. C'est effectivement une idée qui est largement partagée par les pays du centre Europe de l'Est, mais aussi de pays comme la Grande-Bretagne. L'engagement de Londres dans l'OTAN est d'autant plus important qu'elle s'apprête, dans certains scénarios, à quitter l'Union européenne. Donc l'OTAN redevient important pour Londres. La France considère aussi que la Russie est un problème stratégique majeur pour l'Europe, mais les pays du sud de l'Europe ont plutôt tendance à considérer que c'est le terrorisme qui est le problème principal. Et par ailleurs, vous avez des pays qui sont aussi travaillés par les réseaux russes, et ça va de l'Italie au centre-Europe jusqu'à la Bulgarie, en passant par la Grèce, n'oublions pas la Grèce, et pour lesquels la question russe, d'abord géographiquement, elle est moins prégnante, en tout cas pour les pays méditerranéens, et puis par ailleurs, c'est des pays qui sont vraiment travaillés au corps par les réseaux russes. Donc vous voyez, l'idée de dire la Russie, c'est la nouvelle menace fédératrice, entre guillemets, pour l'OTAN,
la traditionnelle, pourrait-on dire.
Avant, c'était la menace soviétique, qui était pas de la même ampleur quand même.
Certes. J'ai demandé à Rob Mallet, et on retrouve cette idée des contradictions de la politique de la Maison Blanche au moment où il n'y a plus d'adultes dans la pièce. Vous vous souvenez, c'est ce que avait dit un certain nombre de dirigeants européens en constatant au départ la volatilité des positions de Donald Trump, et il se consolait en disant oui, mais il y a quelques généraux à la retraite qui sont solides, ils sont tous partis, les généraux. Donc j'ai demandé à Rob Mallet jusqu'à quel point, et c'est une contradiction de plus, le renforcement effectif de la présence militaire américaine en Europe, en tout cas en Europe centrale et orientale, participe d'une stratégie en fait plus constante qu'on ne l'imagine. Rob Mallet.
Vous savez, il y a beaucoup d'explications, mais au niveau le plus primaire, c'est une réaction à la présence russe en Ukraine et ailleurs. Et donc, c'est une façon de montrer que les États-Unis sont présents et qu'ils sont là également pour aider leurs alliés. Encore une fois, on peut dire que c'est une de ces contradictions, parce que le président Trump ne dit pas trop de mal de la Russie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais autour de lui, il y a des gens dans l'administration qui ont une vue, disons, plus guerre froide vis-à-vis de la Russie. N'oublions pas que la Bible de la sécurité nationale américaine, qui est publiée tous les ans, le dernier en date, dit la principale menace auxquelles fait face les États-Unis, c'est celle représentée par les deux autres grandes puissances, la Russie et la Chine en particulier. La Chine en particulier, mais la Russie également. Et non plus le terrorisme. C'est un véritable changement dans la perspective américaine, qui semblerait contredire ce que dit le président Trump, mais cela représente le consensus des conseillers en sécurité nationale de l'administration. Et la présence accrue en Europe centrale et dans les pays baltes reflète cette conviction de la part de l'administration elle-même, même si on peut noter, encore une fois, le décalage entre ce que dit le président Trump et ce que fait son administration.
Dorothée Schmidt, ce décalage entre le discours et les actes, qui complique bien évidemment la tâche des dirigeants européens en particulier. Quand on voit les enjeux méditerranéens, est-ce que on peut considérer que l'OTAN reste le meilleur outil pour gérer un certain nombre de tensions, par exemple les tensions entre la Grèce et la Turquie, qui sont classiques et qui, semble-t-il, dans la mer Égée, reprennent un peu de virulence.
Oui, alors évidemment, là, on tombe évidemment sur un point intrinsèquement problématique pour l'OTAN, puisqu'on a deux membres de l'OTAN qui se considèrent comme encore ennemis traditionnellement, dans une sorte de grande vision de leur historique. Et la semaine dernière, on a encore eu un incident en mer Égée avec l'hélicoptère de Tsipras qui a été pris en chasse par l'aviation turque. Une protestation très forte d'Athènes, auprès d'Ankara. Et en fait, depuis, je dirais, 3 ou 4 ans, des incidents qui se multiplient effectivement en mer Égée. Tout ça est très compliqué, notamment parce qu'a signalé Bruno Tertrais sur le fait que aujourd'hui la force structurante en Méditerranée, ça devient la Russie, et que la Russie, elle a des rapports qui sont différents avec tous ses membres méditerranéens de l'Alliance Atlantique. Et là, il faut revenir évidemment sur la relation russo-turque qui s'est énormément renforcée depuis 2016. J'ai assisté à un séminaire de l'OTAN l'année dernière où des représentants turcs nous expliquaient benoîtement qu'aujourd'hui, il fallait travailler avec les Russes, que c'était le meilleur partenaire pour travailler pour l'OTAN, ce qui évidemment fait un effet tout à fait étrange auprès de gens qui savent que l'Alliance, elle a été construite contre l'Union soviétique et que malgré tout, la Russie, par certains aspects, c'est l'héritière de cet empire soviétique qui s'est écroulé. Et puis la Turquie, elle est aujourd'hui dans une attitude à nouveau de puissance militaire au Moyen-Orient, qui pourrait engager l'Alliance sur de nouveaux terrains, progressivement, par glissement, implicitement. Et là, je prends l'exemple de la crise syrienne, où dans un premier temps, la Turquie était dans une position... Enfin, s'est présentée avec ses partenaires de l'OTAN comme étant plutôt dans une position défensive et dans une demande de solidarité, de protection, avec le déploiement de batteries de missiles Patriot, précisément, à la frontière, pour se protéger d'éventuelles attaques du régime syrien. Et aujourd'hui, la Turquie, elle s'est engagée dans 2 opérations militaires en Syrie. Elle occupe des parties du territoire syrien. Et si on avait des représailles du régime, ce qui serait possible, si un jour on avait un engagement de militaire entre l'armée de Bachar el-Assad et l'armée turque, et si ceci avait des conséquences sur le territoire turc, est-ce que l'article 5 de l'OTAN jouerait ? C'est quand même une question qui est très préoccupante. Je me souviens d'une discussion avec des diplomates il y a quelque temps où j'attirais leur attention sur effectivement cette présence turque et son implication pour l'OTAN, et la réponse était: ce n'est pas une opération de l'OTAN. Donc la Turquie fait ce qu'elle veut en Syrie, ce n'est pas une opération de l'OTAN. Oui, mais la Turquie est engagée aussi dans d'autres opérations avec des membres de l'OTAN. Malgré tout, c'est un membre de l'OTAN, et ce qu'elle fait a des implications pour l'OTAN.
Alexandra de Hoopscheffer, est-ce que cela veut dire que à la tête de l'OTAN, donc il y a donc un ancien premier ministre norvégien, Jens Stoltenberg, est-ce que en fait la diplomatie interne l'emporte sur l'adaptation constante que soulignait d'ailleurs tout à l'heure Claudia Mayor? C'est vrai que l'OTAN a su s'adapter à différents enjeux. Je crois qu'ils sont même allés jusqu'à s'occuper de la lutte contre la piraterie dans la Corne de l'Afrique. Néanmoins, est-ce que les enjeux internes l'emportent sur la définition de nouveaux fronts, et d'ailleurs comment choisir ces nouvelles priorités?
De plus en plus, effectivement, je pense que la survie de cette alliance atlantique est due à sa fluidité, à sa capacité à s'adapter, à élargir ses missions au-delà de l'article 5, et c'est notamment sous l'administration Clinton que ce passage de l'alliance défensive à celle plus de sécurité collective, c'est s'est véritablement accélérée, et en même temps, donc adaptation, mais en même temps, une alliance ne tient que si elle arrive à garder un certain degré de cohésion politique, ce dont on vient de parler. En gros, c'est qui sommes-nous ? Quelles valeurs défendons-nous ? Et un certain degré de cohésion stratégique. Quels sont nos intérêts ? Quels sont nos objectifs stratégiques aujourd'hui ? Quelle est la raison d'être de l'OTAN aujourd'hui ? Et là, ce qui est extrêmement intéressant, on a parlé de la Turquie, des États-Unis, on a parlé des Polonais. Mon institut, le German Marshall Fund, avait entre autres organisé une table ronde aux marges du sommet de l'OTAN de juillet 2018 à Bruxelles. Et on avait justement des responsables turcs, polonais, américains autour de la table. Et on leur demandait aujourd'hui, pour vous, quel est l'objectif aujourd'hui de l'OTAN ? Quelles sont les priorités ? Le Turc parlait bien évidemment de la Méditerranée, de la lutte contre le terrorisme. Le Polonais, c'était bien sûr la Russie. Et l'Américain, c'était la Chine. Et on entend de plus en plus parler de la Chine à l'intérieur de l'OTAN.
Il faut quand même rappeler que les troupes chinoises, quand elles s'entraînent contre les États-Unis.
Absolument, absolument. Ouais. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'on voit, et ça c'est quelque chose de très présent dans, je dirais, la discorde, en tout cas les divergences stratégiques entre les États-Unis et les Européens en tant que membres de l'Alliance Atlantique, c'est que les États-Unis ont toujours envisagé l'OTAN comme une OTAN globale, c'est-à-dire un instrument, et ils le disent vraiment, aujourd'hui pour nous, l'OTAN, l'Union européenne, pour nous, c'est un instrument utile pour répondre à d'autres défis globaux en dehors des frontières de l'OTAN et l'Union européenne, et notamment par rapport à la Chine, etc. Et donc là, ce qui se passe, et on va l'entendre d'ailleurs la semaine prochaine au moment du 70e anniversaire, c'est une pression de la part de Washington pour que les Européens mettent un peu plus de Chine et de discussion autour de la Chine et de ce que doit faire l'OTAN par rapport aux défis chinois. Et donc là, on voit qu'il y a aussi une volonté des Américains que leurs alliés européens s'alignent sur leurs intérêts et leurs objectifs, qui sont beaucoup plus globaux peut-être que ceux que l'on a, nous, pour l'OTAN. Nous, l'OTAN, c'est vrai, c'est l'alliance militaire, c'est la sécurité de l'Europe. Alors, c'est vrai qu'on a fait des interventions en Afghanistan, en Irak, mais ça reste dans le voisinage. Mais là, il y a véritablement une volonté de l'administration Trump de globaliser encore plus l'OTAN. Parce que plus elle va servir les intérêts américains, plus ils vont vouloir investir dans cette alliance. Et c'est pour ça que moi, je défendrais plutôt l'idée inverse de celle dont on entend parler. Les Américains ne se désengagent pas de l'OTAN et ne se désengagent pas de l'Europe. Au contraire, ils vont avoir de plus en plus besoin de nous. Mais besoin de nous pour répondre à leurs priorités stratégiques qui sont peut-être beaucoup plus globales que celles que l'on a.
Et qu'on ne partage pas forcément.
Dont on ne partage pas forcément, je dirais, la réponse.
Bruno Tertrais.
Et puis il y a quand même un problème de fond. C'est que certaines menaces en dehors de la Russie, bien sûr, sont directement concerné par le traité de Washington et par l'idée de dire qu'une agression armée contre un membre est une agression contre tous. Mais attention, c'est seulement dans une zone définie géographiquement. C'est la zone qu'on appelle de l'Atlantique Nord. Si demain, il y a un missile chinois sur Hawaï, sur le territoire américain, l'OTAN n'est pas concerné. L'article 5 n'est pas concerné.
Mais il y a aussi
ça fait quand même une grande différence.
Ce qu'on appelle l'étranger proche.
Ah non, l'étranger proche, c'est une expression russe, chère Christine. C'est l'expression employée pour la Russie pour dire c'est quand même un petit peu chez nous, ce qui évidemment chez les Estoniens et les Finlandais et les autres, ça n'a quand même pas beaucoup de succès.
Mais donc quand il est question effectivement de faire entrer la Géorgie, je parle même pas de l'Ukraine où là c'est un casus belli, évidemment là oui, l'étranger proche du point de vue russe prend tout son sens.
C'est un vrai sujet d'ailleurs parce que la Géorgie et l'Ukraine ont été attaquées par les forces russes, même si dans le cas de la Géorgie, il y a eu une petite provocation. Effectivement, bon, on va pas refaire l'histoire. Mais moi, je crois que Vladimir Poutine n'est pas idiot. Il sait très bien ce que c'est que l'article 5. Il sait très bien ce que c'est que l'OTAN. Il ne s'est jamais pris militairement à des pays couverts par l'article 5. Seulement, il faut pas non plus lui donner la tentation. C'est pour ça que l'idée de dire à l'OTAN, c'est d'abord de la dissuasion, ça reste très important. Est-ce qu'on va un jour faire entrer la Géorgie et l'Ukraine ? Théoriquement, ils sont candidats, on a dit qu'on les prendrait. Moi, je crois que c'est un sujet qui n'est absolument pas consensuel.
La France et l'Allemagne avaient bloqué dans le cadre de l'Ukraine.
Je pense que la Géorgie et l'Ukraine vont continuer à être candidats à l'entrée de l'OTAN, comme la Turquie est encore candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Autrement dit, ça va prendre quelques décennies. Sur la Chine, quand même, on a un vrai souci. Si les Américains poussent cette discussion, on va avoir un vrai problème, parce que ça n'est pas de la compétence de l'OTAN, sauf si c'est pour dire, si nous avions, nous, Américains, un conflit avec la Chine, Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, et là ça devient pertinent, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour prendre davantage de responsabilités dans la sécurité de l'ordre? Alors là, oui, c'est une vraie discussion et je crois même qu'il faut l'avoir. Une dernière chose qui est importante, les décisions se prennent par consensus. Consensus à 29, il n'y a pas de chef de l'OTAN. Stoltenberg, c'est quelque part entre le concierge et le président du conseil syndical. Enfin, si
c'est
vous voulez.
Le secrétaire général.
Oui, mais quoi. Ça n'est que le secrétaire général. Ouais. Pardon d'être un petit peu, je ne veux pas avoir l'air de... Il a une fonction extrêmement importante, c'est un homme estimable. Mais ça n'est pas le patron de l'OTAN. Le patron de l'OTAN, c'est la réunion des 29, c'est pour ça que c'est aussi difficile de prendre des discussions.
Son travail, c'est de faire l'équilibre.
C'est parce que tout se fait par consensus, donc c'est très long et très compliqué.
Retournons à Berlin, vous rejoindre Claudia Mayor. Vu de Berlin, vous nous disiez tout à l'heure, oui, l'OTAN a su s'adapter à différents enjeux, la cyberdéfense, il y a ce commandement qui est confié d'ailleurs à un général français qui s'appelle l'ANATA, donc en Virginie, qui est un, je crois, la réaction rapide, c'est ça, Bruno Tertrais, le commandement.
Non, lui, il est chargé de la transformation de l'OTAN.
La transformation de l'OTAN. Donc ça prouve bien l'ambition de s'adapter au bouleversement technologique et à la multiplication d'enjeux, encore une fois, qui sont éloignés de la conception traditionnelle de la défense. Vu de Berlin, on vient de voir que les pays scandinaves, par exemple, ont mené de grandes manœuvres parce qu'ils se préoccupent, eux, de l'Arctique. Et entre le réchauffement climatique, la manière dont la Chine et la Russie veulent ouvrir des voies de navigation au niveau de l'Arctique, on voit bien là aussi qu'il y a un déplacement des enjeux. Est-ce que c'est plus perceptible, vu de Berlin, que ce n'est de Paris?
Je crois déjà, pour des raisons géographiques, l'Est, la Russie ou l'Europe de l'Est et le Nord, c'est beaucoup plus près. Donc aussi la région baltique, c'est quelque chose qui est, pour Berlin, beaucoup plus près. Mais si je prends aussi un peu ce que les autres ont dit dans ce débat-là, je crois la préoccupation principale pour Berlin, en ce moment, c'est de garder la cohésion au sein de l'OTAN. On a parlé de la Pologne, de la Turquie, de l'Allemagne et de la France, et tout ça renvoie en fait au problème de garder les 29 alliés ensemble. Et pourquoi c'est un tel challenge, pourquoi c'est un tel problème? C'est parce que la cohésion politique est la précondition ou la condition de base pour une crédibilité militaire dans la défense et la dissuasion. Et quand je me souviens du sommet de l'OTAN l'été dernier à Bruxelles, où le président américain a donné des leçons à la chancelière allemande, il y avait des sessions de crise et tout ça. Cette image d'une alliance déchirée politiquement affaiblit énormément le message politique et la crédibilité militaire, excusez-moi, dans le domaine de la défense et la dissuasion. Et c'est pour ça, garder cette unité, cette cohésion est tellement importante. Quand la Pologne dit on préfère d'avoir des relations bilatérales, ça a toujours existé, mais pas dans cette ampleur-là, c'est aussi un message de dire on n'est pas sûr si l'OTAN va vraiment être là, on n'est pas sûr si nos alliés vont vraiment être là en cas de crise. Et des signaux comme ça de la Turquie, de la part de la Pologne et de la part d'autres pays, pour moi, sont extrêmement importants et il faut les écouter. Donc l'investissement dans la cohésion, dans la solidarité politique qui fait en fait la force de l'Alliance, je crois, est aussi une préoccupation de l'Allemagne.
Une question quand même, pardon Claudia, en ce qui concerne le problème qui est intra-européen. On a vu que Berlin a bloqué la livraison d'armes à l'Arabie Saoudite après l'assassinat de Khashoggi, la guerre au Yémen. Du coup, la France et la Grande-Bretagne protestent officiellement en disant « Ah oui, mais du coup, nos propres ventes d'armes sont bloquées puisqu'il y a des composantes allemandes dans certains équipements que l'on veut continuer à pouvoir vendre ». Donc ça veut dire que... au sein même du trio européen, donc des trois premières puissances économiques européennes, incluons encore les Britanniques, ça marche pas fort.
Oui, en fait, le problème, c'est qu'on a deux niveaux de problème. Le problème transatlantique, donc entre les États-Unis et les Européens, ça marche pas très bien en ce moment. Et au sein de l'Europe, donc entre les États européens, il y a aussi des problèmes. Et là, malheureusement, il faut le reconnaître, l'Allemagne, en ce moment, ajoute à la division au sein de l'Europe, non seulement par les questions d'exportation d'armement que vous avez soulevées, mais aussi par exemple par la décision de soutenir Nord Stream 2.
Le gazoduc, donc, qui est pour contourner l'Ukraine par le nord.
Exactement. Et aussi par la décision de ne pas augmenter le budget de défense comme c'était prévu, et aussi par les disputes internes dans la politique intérieure, par exemple sur les questions nucléaires. Donc il faut avouer, j'ai un peu du mal à faire ça, mais l'Allemagne en ce moment est un petit problème dans le domaine de la défense en Europe.
Dorothée Schmidt.
Je voulais d'abord souligner que l'idée d'une compétition des industries de défense européennes, ça doit aussi nous amener à réfléchir sur l'idée de la course aux armements, notamment au Moyen-Orient. Je tiens quand même à le dire, parce qu'on est dans une région où les conflits, trois conflits nouveaux sont apparus depuis les printemps arabes. Quand on dit que la guerre en Syrie est finie, je crois que c'est faux. Donc on doit aussi se préoccuper sur le niveau des armements qui circulent aujourd'hui dans la région. Deuxième point, sur la crédibilité de l'OTAN, effectivement, là, il y a quelque chose de très intéressant qui se joue dans la relation russo-turque. Vous savez, depuis quelques années, on a un vrai débat sur la place de la Turquie au sein de l'OTAN et sur l'idée que peut-être la Turquie devrait quitter l'OTAN. La Turquie n'a aucun intérêt à quitter l'OTAN parce que l'OTAN est garant de l'intégrité du territoire de la Turquie et l'OTAN n'a pas intérêt à se débarrasser de la Turquie non plus. En revanche, les Russes ont joué un jeu très astucieux parce que ce dissensus permanent qui se manifeste entre la Turquie et le reste de ses partenaires, il est effectivement tout à fait désastreux pour l'image de l'OTAN et il affaiblit sa crédibilité.
Bruno Tertrais, en guise de conclusion provisoire, on a vu que les États-Unis, sans consulter leurs alliés, sans même les prévenir, sont sortis unilatéralement du traité sur les missiles nucléaires qu'on appelle INF, c'est ça ?
Oui, les forces.
D'ailleurs, vous étiez venu nous expliquer ce sujet complexe il y a quelques mois maintenant, dans cette émission. On sait qu'en, je crois que c'est en 2022, un autre traité sur les armes nucléaires à longue portée va arriver à échéance. Est-ce que sur ces enjeux majeurs, et encore une fois, on ne va pas les ouvrir ce matin, mais c'est simplement pour donner les perspectives, les complications extrêmes. Et encore une fois, il s'agit d'enjeux qui menacent et concernent la sécurité de la planète.
Oui, en fait, ce à quoi on assiste, c'est au détricotage, à l'effilochage permanent de tout l'édifice de contrôle, de maîtrise des armements, à la fois dans le domaine classique, conventionnel et nucléaire, depuis maintenant une quinzaine d'années, et en particulier depuis 2-3 ans. Il faut malheureusement reconnaître que ceux qui violent les traités, les engagements qu'ils ont pris, ce sont d'abord et avant tout les Russes. Mais le problème, c'est qu'avec Monsieur Trump, j'ai envie de dire que Monsieur Trump en remet une couche à chaque fois, et il fait des cadeaux d'ailleurs aux Russes, c'est assez curieux, mais alors que tout le monde est d'accord, même les Français, pour dire que c'est la Russie qui viole ce fameux traité, qui était le symbole de la fin de la guerre froide, le traité sur les forces nucléaires intermédiaires en 1987, et ben c'est Trump qui, avant tout le monde, dit « moi j'ai plus appliqué, puisque la Russie n'applique pas ». Donc on a un double problème. Le problème de fond, nous ne voilons pas la face, c'est quand même le fait que la Russie chamboule l'ordre de sécurité européen de manière méthodique, ça ne date pas d'hier. Mais aujourd'hui, on a en plus les États-Unis qui en rajoutent. Et le problème, c'est que là-dedans, les Européens restent un petit peu spectateurs.
Merci à vous tous de nous avoir ainsi éclairés ce matin. Merci Bruno Tertrais. Vous venez de coordonner un atlas militaire et stratégique. Ça vient de paraître aux éditions Autrement. Merci à vous Dorothée Schmidt. Vous avez publié aux éditions Talendier une excellente Turquie en 100 questions. C'était en octobre dernier. Alexandra de Hoopcheffer, vous avez publié Hamlet en Irak. C'est un beau titre aux éditions du CNRS. Claudia Mayor, merci d'avoir été avec nous par téléphone de Berlin et vos publications sont sur le site de l'Institut allemand pour la sécurité. Merci à Rob Mallet et je n'oublie personne, mais merci à Eric Scholl, bien sûr. Luc-Jean Reynaud était à la réalisation ce matin, Anthony Thomasson à la technique, Meryl Moneghetti et Marion Barsac ont préparé cette émission et mettront sur notre site Affaires étrangères France Culture toute la bibliographie nécessaire. Et voici, comme chaque samedi, Hervé Gardette. Très bon week-end.